Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, nous continuons à nous préparer au souvenir de la venue du Sauveur et j'aimerais que nous relisions ensemble le texte d'Ésaïe 53 et je lis à partir du verset 2. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allé par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Et plus loin au verset 10, « Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, » il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Un texte qu'Ésaïe a écrit des centaines d'années avant la naissance de Jésus, mais il annonçait déjà la venue du Sauveur. Il annonçait que ce Sauveur serait innocent devant Dieu, mon serviteur le juste, mais qu'il accepterait de mourir à la place des coupables, afin que nous puissions être pardonnés. Puis ce Sauveur reviendrait à la vie, il vivrait de longs jours, parce qu'il ne méritait pas la mort qu'il a reçue volontairement. Dieu nous aime de tout son cœur. Il ne veut pas notre condamnation, mais il est parfaitement juste. Ce texte nous le dit. Il ne peut pas déclarer un coupable innocent. Ça serait une injustice, une erreur judiciaire. Alors dans son amour, Dieu a décidé de recevoir lui-même la condamnation qui nous attendait. Et dans sa justice, alors il a pu nous déclarer juste à notre tour. La période de l'Avent, cette période où on se souvient de la venue du Sauveur, cette période nous rappelle avant toute chose que nous avons besoin d'être sauvés. Ça paraît simple, s'il y a un Sauveur, c'est qu'il y a besoin de salut. Ça paraît simple. Mais c'est pourtant le point central de la venue du Christ, c'est la raison de sa mort et de sa résurrection à la Pâque. C'est ce que nous dit notre texte. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Ou encore l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Ou encore, et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Ce souvenir qu'un sauveur doit venir nous rappelle à tous notre besoin d'être sauvés. Le mal fait partie de ce monde. Je pense que j'apprends rien à personne. Il fait partie de ce monde parce que les humains ont rejeté Dieu. Ils ont décidé de vivre sans lui, de se passer de lui. Malheureusement, c'est Dieu et lui seul qui peut donner du sens à notre vie, parce que c'est lui la source de la vie. Il n'y a qu'à voir le désespoir actuel qui s'exprime dans notre société, dans notre monde, pour voir que sans Dieu, la vie humaine manque cruellement de sens. Alors ce vide de sens, les humains essaient de le combler par tous les moyens, amour, plaisir, argent, famille, amis, soutenir une juste cause. Mais ce n'est que fuir la réalité. Sans Dieu, quel que soit notre contexte, quel que soit notre niveau de vie, quel que soit notre société, quels que soient les choix politiques de nos dirigeants, sans Dieu, la vie humaine n'a pas de sens. Parce que c'est Dieu et lui seul qui est la source de la vie. Le mal fait partie de ce monde parce que les humains ont rejeté Dieu, ils ont rejeté celui qui donne la vie, et ça ne peut pas rester sans conséquence. Rejeter la vie conduit forcément vers la mort. Le mal fait partie de ce monde, et ça a des conséquences visibles, dont je pense les deux plus graves sont justement la maladie et la mort. Et c'est de ce sujet difficile de la maladie que j'aimerais parler aujourd'hui. La maladie, comme je l'ai dit, est une conséquence de l'existence du mal dans ce monde. Et tout comme le mal, la maladie n'a aucune utilité. Elle n'a aucune raison d'exister. Ce n'est que la conséquence du rejet de Dieu par les humains. Et c'est très important à rappeler, je pense, parce que bien souvent, ça se comprend, face au deuil, à la souffrance ou à la maladie, notre première réaction, c'est « Pourquoi ?» Et demander « Pourquoi ?» c'est en fait rechercher soit une raison, une cause, soit un but. D'où est-ce que ça me vient ou bien dans quel but est-ce que ça m'arrive? Ce pourquoi, c'est une réaction naturelle. Mais la réponse de la Bible, c'est que le mal, la maladie et la mort n'ont aucune raison, utilité d'exister. Ils sont simplement une conséquence. Les humains ont rejeté celui qui est la vie et ils sont donc maintenant soumis à la maladie et à la mort. Et du coup, il faudrait plutôt renverser la question, et c'est ce que je vous propose ce matin. Si la maladie et la mort sont des conséquences du mal, et si tous les humains participent à ce mal, pourquoi est-ce que tous les humains ne sont pas malades? Et pourquoi est-ce que tous les humains ne sont pas déjà morts? C'est une question qu'on se pose moins souvent. Et la réponse se trouve dans l'amour infini de Dieu. Oui, les humains ont rejeté Dieu, ils sont coupables de cela, mais ça n'enlève rien au fait que Dieu nous aime. Alors plutôt que de nous abandonner totalement aux conséquences du mal, il nous préserve, il protège tous les humains, il limite chez tous les humains les conséquences du mal. Il continue à nous donner la vie, même si c'est pour quelques années, et il limite l'ampleur de la maladie à l'échelle de l'humanité. La maladie, lorsqu'elle frappe, lorsqu'elle survient, c'est en fait un drame qui vient me rappeler deux choses. Tout d'abord, ça me rappelle que la santé n'est pas un dû, c'est un cadeau de chaque instant. Un cadeau que je ne mérite pas, parce qu'en tant que pécheur, je mérite d'être privé de la vie de Dieu. Et la maladie me rappelle donc aussi mon état de pécheur. Sans Dieu, je suis perdu. Je vais vers la mort, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de Dieu. La maladie, au niveau physique, vient en fait rendre visible la maladie de mon âme, qui, elle, est invisible. Tous les humains sont malades dans leur âme. Tous ont besoin d'être sauvés. Et la maladie physique n'en est qu'un reflet, une image. Alors il reste quand même un mystère. Si Dieu nous préserve en partie des conséquences du mal, pourquoi certains sont quand même malades et pas d'autres? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus mauvais? Qu'ils ont fait plus le mal? Absolument pas. Il y a, c'est vrai, quelques exemples dans la Bible de personnes qui sont punies de maladies pour une faute en particulier. On peut penser, je vais donner deux exemples, hein, il y en aurait d'autres, on peut penser à Myriam, la sœur de Moïse, frappée de la lèpre pendant 7 jours parce qu'elle s'est opposée à Moïse qui avait été choisi par Dieu. On peut penser à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, on en a parlé ces derniers dimanches, qui est rendu muet jusqu'à la naissance de son fils parce qu'il n'a pas cru en Dieu. Mais ça ne reste que des exemples isolés, des exceptions. Non, être malade ne veut pas dire avoir commis plus de fautes que les autres. Ça ne veut pas dire être plus mauvais. Mais comme je l'ai dit, il y a là un mystère. Dieu, dans son amour, limite chez nous tous les conséquences du mal, sans quoi tous les humains seraient déjà morts. Mais il ne le limite pas chez tous de la même manière. Certains vivent 30 ans, d'autres 90 ans. Certains sont en plus ou moins bonne santé, d'autres sont plus malades. Dieu limite les conséquences du mal chez tous les humains par amour pour nous. Mais il ne le limite pas chez tous de la même manière. Et il y a là un mystère auquel je me garderai bien d'essayer de trouver une réponse, parce que je ne l'ai pas. Mais il n'empêche que la maladie, lorsqu'elle survient chez moi ou chez un proche, eh bien elle me rappelle à la fois mon besoin de salut, elle me rappelle aussi l'amour de Dieu, qui malgré tout limite les conséquences du mal chez les humains. Nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, et nous voulons justement nous souvenir de la venue de ce Sauveur dont nous avons besoin. Car il est venu. En Jésus-Christ, Dieu est devenu un homme pour sauver tous les humains qui veulent bien l'accepter comme Sauveur. Il est venu sauver la maladie de notre âme, ce mal qui nous sépare de Dieu. Il nous pardonne, il nous réconcilie avec Dieu, il nous donne accès à nouveau à la vie de Dieu. Et il nous promet d'ailleurs une vie auprès de Dieu jusque dans l'éternité. Mais il peut également rendre visible cette guérison de l'âme par la guérison du corps. Et notre texte d'Ésaïe nous l'affirme. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Oui, si nous recevons le Christ comme sauveur, il vient avant tout guérir notre âme à jamais. Et il peut aussi rendre visible ce salut invisible en guérissant notre corps. La guérison du corps chez le croyant n'est pas systématique. Oui, par le Saint-Esprit, notre âme est sauvée, régénérée, elle est née de nouveau, mais notre corps, non, pas encore. Lui, il reste fragile, soumis aux conséquences du mal. Notre corps continue à souffrir, à tomber malade et à mourir un jour. Et lorsque Dieu nous promet une vie éternelle auprès de lui, ce n'est pas avec ce corps que nous avons actuellement, c'est avec un corps, nous dit la Bible, de résurrection. Un corps qui sera comme notre âme, né de nouveau. Donc différent, sans le mal. C'est une espérance, c'est une promesse de Dieu qui reste à venir, donc qui n'est pas encore pour le présent. Mais Dieu peut déjà, dans notre présent, rendre visible la guérison de notre âme en guérissant aussi notre corps. Souvenez-vous du paralytique à qui Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés ». La réaction des gens, c'est de protester. Il devrait être en train de louer Dieu parce qu'il vient d'y avoir un miracle. Un pécheur a été pardonné. C'est un miracle, mais ce miracle est invisible. Et la foule proteste. Alors Jésus décide de rendre visible ce miracle invisible. Et il dit ceci. « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu. Dans ce miracle, en guérissant son corps, eh bien Jésus a simplement prouvé et rendu visible la guérison de l'âme de cette personne. Et il a permis à la foule de glorifier Dieu pour ce miracle qui était rendu visible. Oui, dès aujourd'hui, Dieu peut guérir notre corps à l'image de la guérison de notre âme. Mais je le répète, ce n'est pas systématique chez le croyant. Parce qu'au contraire du salut de l'âme, ce n'est pas une promesse pour aujourd'hui. Et l'apôtre Paul lui-même a souffert de la maladie sans en guérir. Paul, par qui Dieu a guéri de nombreuses personnes, n'a pas reçu pour lui cette guérison. Il l'a pourtant demandé à Dieu, il nous le raconte en 2 Corinthiens 12, au verset 8, lorsqu'il nous dit « Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a répondu « ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Paul réclame la guérison de son corps. Mais Dieu lui répond que ce n'est pas avant tout de guérison dont il a besoin, c'est de son amour. Paul avait avant tout besoin de l'amour de Dieu. Cet amour qui, dans ce monde, ne vient pas forcément abattre tous les obstacles ou toutes les souffrances, mais cet amour qui permet de traverser ces épreuves, traverser ces obstacles, dans la consolation que seul Dieu peut nous donner. Cet amour rendu visible en Jésus-Christ, nous donne l'assurance que Dieu nous sauve et qu'il nous donnera de vivre éternellement dans sa présence, sans le mal, sans la maladie, sans la mort. Dieu ne nous promet pas de guérir nos faiblesses, mais il nous promet de venir manifester son amour et sa puissance au sein de notre faiblesse. Il reste un dernier point que j'aimerais aborder. Au sein du peuple de Dieu, au sein de l'Église du Christ, la Bible nous affirme que nous formons un seul corps, nous sommes unis en Christ en une famille, et l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 12, au verset 26, « Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. » Or, vous, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Les disciples du Christ forment un corps, et la souffrance de l'un des membres rejaillit sur tous. Si l'un ou l'une de nos frères et sœurs souffre de la maladie, c'est nous tous qui devons recevoir cette souffrance. Si la maladie de notre frère ou notre sœur lui rappelle dans sa vie son besoin de salut et de pardon, c'est à nous tous que cela rappelle ce besoin d'être pardonné et sauvé par Dieu. Si notre frère ou notre sœur prie pour demander à Dieu sa guérison, comme l'apôtre Paul a pu le faire, eh bien c'est nous tous qui sommes appelés aussi à prier pour cette guérison. Et il y a un texte en Jacques chapitre 5 qui nous permet de rendre visible tout cela, qui permet de le marquer par un acte. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui nous parlons de rendre visible ce qui ne se voit pas. La prière est invisible. Elle peut s'entendre par les mots, quand elle est dans le cœur, on ne la voit pas. Et nous avons besoin de visible. Alors en Jacques chapitre 5, nous recevons un geste, un acte qui nous permet de rendre cela visible. L'un de vous passe-t-il par la souffrance ? Qu'il prie. Un autre est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ce texte affirme que la maladie nous rappelle avant tout notre besoin de pardon et de salut. Et dans ce corps qu'est l'Église, eh bien ce texte associe la prière pour le malade au besoin de confession du malade, mais aussi au besoin de confession de l'ensemble de la communauté, les uns aux autres. Les uns pour les autres. Nous sommes un corps. Si un membre souffre, nous souffrons aussi. Si un membre a besoin de pardon, c'est nous tous qui devons nous rappeler et rechercher ce pardon. Si un membre prie pour sa guérison, c'est nous tous qui demandons à Dieu de le guérir. Et ce n'est pas une manière pour nous de forcer la main de Dieu, mais c'est tout simplement notre manière d'exprimer à notre Père le souhait de notre cœur. Entre frères et sœurs, nous nous aimons. Et par amour, nous souhaitons que notre frère ou notre sœur malade soit guéri. Alors nous exprimons ce souhait à notre Dieu, parce que nous croyons, nous savons, nous avons foi dans ce qu'il peut tout. Le geste, de l'onction d'huile est juste un symbole. Il n'y a rien de magique, mais c'est un symbole qui vient rendre visible cette prière. Parce que l'huile dans la Bible est un symbole couramment utilisé, symbole du Saint-Esprit que Dieu donne aux croyants. Symbole aussi d'une personne remise entre les mains de Dieu, consacrée à Dieu. Symbole aussi d'une demande de guérison. Parce que l'huile a des propriétés curatives et était utilisée notamment couramment comme médicament. Et la Bible nous demande donc de rendre visible notre unité en souffrant avec le membre malade, en recherchant le pardon de Dieu avec le membre malade, en priant pour la guérison avec le membre malade, et en rendant visible la prière invisible de notre foi par ce geste, ce symbole de l'onction d'huile. Vous vous en doutez bien, je n'aborde pas ce sujet aujourd'hui par hasard. Beaucoup parmi nous savent que notre sœur est atteinte de la maladie de Parkinson. Eh bien, notre sœur en Christ a demandé au conseil de l'Église de pouvoir recevoir la prière pour sa guérison avec onction d'huile. Ça a été pour nous l'occasion d'étudier tout à nouveau ce sujet en conseil, d'en discuter, de prier ensemble à ce sujet, et nous avons souhaité répondre très favorablement à sa demande. Mais nous avons aussi été très touchés par cette dimension communautaire du texte de Jacques, chapitre 5, et notamment par la démarche de repentance communautaire qui accompagne la prière pour le malade, vu que la maladie nous rappelle notre besoin de salut et donc de repentance. Alors nous allons aujourd'hui vous proposer un moment particulier durant ce culte. Nous allons prendre un temps de silence, tout d'abord pour tourner notre cœur vers Dieu, puis un temps de prière de repentance, en particulier pour tout ce qui, dans notre attitude ou nos paroles, pourrait nuire à notre unité en Christ, à notre témoignage commun ou à l'œuvre du Saint-Esprit en nous et parmi nous. Ce moment de prière sera libre, à haute voix ou dans le silence de notre cœur, à la suite de quoi les responsables de l'Église se rassembleront pour porter à Dieu, en notre nom à tous, notre prière pour la guérison, prière qui sera rendue visible par le symbole de l'onction d'huile. Et enfin, nous prendrons un temps de louange, un temps d'adoration pour remercier notre Dieu de son amour, le remercier de l'œuvre de salut qu'il réalise pour nous en Jésus-Christ, œuvre dont nous nous souvenons particulièrement pendant la période de l'Avent.